et notamment dans l'approche de la structure. Donc, dont personne, ça ne veut pas dire qu'en étant de laïc agnostique, dans ce monde de vacuité totale, de la prophétie, ça c'est l'antidote total à la vacuité du monde moderne. L'antidote total, le rythme.
Bien, bonjour à tous. Merci de vous asseoir. Merci de prendre place debout. Vous allez bien? J'ai pas entendu. Vous allez bien? Bon. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous de votre discipline, du respect des horaires. Hier, on a eu une journée formidable. C'était difficile, hein, se balader entre deux étages. Tout le monde était à l'heure, dans tous les ateliers. C'était vraiment parfait. Et je voudrais remercier particulièrement les intervenants, ceux qui ont présenté des communications. J'ai fait le contraire de ce que j'ai demandé ce que vous fassiez, c'est-à-dire je me suis baladé partout. J'ai assisté un peu à tout, par bribes, bien entendu. Et je trouve que, alors je ne peux pas dire toutes, parce que je n'ai pas assisté à toutes, mais à des bribes de presque toutes, les présentations, elles étaient d'une grande, grande qualité. Alors je souhaiterais, puisqu'on ne l'a pas dit, que ceux qui ont présenté ces communications puissent les adresser à la FISAF. Alors notez l'adresse mail que je vous donne, contact@fisaf.asso.fr. Nous permettant de faire vite la collecte de l'ensemble des présentations pour les mettre sur le site de la FISAF avec le lien qui vous permettra d'écouter les parties qui sont enregistrées, à savoir les parties qui sont en plénière. Les ateliers n'étaient pas, bien entendu, enregistrés. Je ne vous parlerai pas du film. J'ai senti hier qu'il y avait une épidémie de reniflage aigu. Donc, une épidémie de reniflage aigu. C'était le microclimat de la salle. Donc je passerai ce moment, puisque je pense qu'il est plus personnel, individuel que collectif, même si tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Et on va introduire la matinée en donnant tout de suite la parole à Joseph Chovanec. Joseph Chovanec, s'il va se lever, vous allez voir l'importance du personnage. Et c'est une personne avec autisme, qui parle quand même cette langue. Je ne sais pas lesquelles, vous allez peut-être le dire, Joseph. Bon, non ? D'accord. Et qui est diplômé de Sciences Po et de philosophie. Donc, il va être le grand modérateur, animateur de la matinée. Il va introduire les tables rondes, il va les commenter, il va faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et je lui cède bien volontiers tout de suite le micro. Joseph.
Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. C'est une grande joie, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup à la FISAF donc, d'avoir bien voulu m'inviter. Et merci à nos amis, les traducteurs LSF, ceux qui travaillent vraiment ici, quoi. Je ne vous embêterai pas longtemps. C'est juste pour vous parler d'une maladie terrible qui sévit. C'est pire qu'Ebola. Ce sont les troubles non autistiques, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez des gens concernés par les troubles non autistiques. Ces troubles-là s'accompagnent parfois de beaucoup de souffrances. L'autre jour, j'ai vu rencontrer une vedette de la télé. C'est a priori une personne qui a tout. Elle est riche à millions, elle est connue, elle est jeune, mais c'était une personne d'une grande tristesse. Dès que je l'ai vue, j'ai compris que cette personne allait se flinguer dans l'heure. ou presque. Et je me suis dit, il ne faut pas laisser les gens d'Ivalide dans la souffrance. Peut-être qu'après tout, la véritable mission des personnes handicapées, c'est de remonter le moral aux gens d'Ivalide, non ? Et je suis ravi donc de pouvoir partager avec vous les interventions qui vont suivre. On a l'habitude de dire que le mauvais rôle dans les colloques, c'est celui du modérateur, parce qu'il dit « il reste 2 minutes ». Alors vous imaginez combien c'est chiant quand le modo est autiste. Hein. Ça passe pas, hein, la moindre seconde, tout est contrôlé, tout ça. Hein. Donc si vous le voulez bien, on va le faire comme ça. Mais surtout, peut-être gardons présent à l'esprit un peu ce que m'a appris un ami cher, Amou Bouakaz, aveugle de naissance, que peut-être certaines personnes connaissent parmi nous, et qui a été pendant plus de 6 ans à la fois mon patron et mon ami, celui qui m'a tiré des poubelles de la société, il n'y a pas d'autre terme. Et donc il m'a toujours appris que finalement le handicap, ça pouvait être cool et une source de rigolade. Donc j'espère qu'on passera un moment dans la bonne humeur. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.
Bien, donc, première table ronde sur l'attente et la demande des parents et des usagers. Et tout d'abord, donc, vous présentez les personnes qui vont participer et qui vont se présenter elles-mêmes. Elles le feront mieux que je ne le ferai. Donc, d'abord, Madame Gambrel.
Merci. Ça marche ? Oui. Bah écoutez, je vais faire comme vous, Monsieur Chovanec. Hein, je vais prendre le temps aussi de remercier Maurice Beccari et la FISAF de m'avoir fait ce beau cadeau d'être parmi vous et de pouvoir bénéficier aussi de l'atelier 3 d'hier soir que j'ai eu le temps de voir, de bénéficier de la projection du film et puis de bénéficier aussi de la vertu apaisante et anti-stress de M. Skovanek. Voilà, et merci au traducteur. Donc, je suis parent d'un troisième enfant polyhandicapé qui est né en 82 et qui est décédé en 2005 et qui m'a donc... vu l'ampleur de ces atteintes, qui m'a imposé de renoncer à mon activité professionnelle, mais qui m'a aussi dirigée vers un engagement associatif assez proliférant au sein de l'UNAPI, du groupe Polyhandicap France, de ANDAS et du CLAPHA pour finir, car je préside le CLAPHA. Ayant pris la relève du très regretté Henri Fèvre. Le CLAPHA, j'en précise le sigle, c'est le comité de liaison et d'action des parents, d'enfants et adultes à handicap associés. Le CLAPHA s'intéresse donc aux situations de handicap complexe, aux situations de handicap complexe de grande dépendance aussi, et au handicap rare, il a été moteur dans la construction du schéma premier et second des handicaps rares, et il vient de publier une étude qu'il a commanditée auprès du CEDIAS, animée donc par Jean-Yves Barrère, sur les situations de handicap complexe de grande dépendance, les attentes, les besoins, et les moyens d'accompagnement des personnes qui connaissent de telles situations avec une altération de leur capacité de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Voilà.
Merci Madame Gambrel. Maintenant Madame Gentil.
Bonjour à tous. Je remercie la FISAF aussi d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Je suis la maman de 3 jeunes filles hein, de 15 ans à 18 ans. Dont Alix, qui a 17 ans et qui est atteinte d'une maladie rare génétique et polyhandicapante. Donc, moi, à l'annonce du handicap, je me suis tournée vers le monde associatif, où j'ai passé 9 ans au niveau national dans l'association française du syndrome de Rett. Ça m'a permis, en tant que coordonnatrice du conseil paramédical et éducatif, ainsi que grâce à la vice-présidence, de m'impliquer pleinement dans les prises en charge au niveau du polyhandicap en général et du syndrome de Rett, et ensuite dans ma propre association pour agir au niveau localement avec l'association Tous Ensemble pour Agir. Voilà.
Merci. Madame Macal.
Merci, bonjour à tous. Je remercie également toutes les personnes qui se sont investies pour que cette journée et les journées précédentes aient lieu. Donc, je suis patient expert, je suis étudiante à l'université Pierre et Marie Curie à Paris 6, en deuxième année de master, donc. Et puis, un patient expert, ça veut dire une personne qui est malade, qui a un certain recul sur sa maladie. C'est aussi vis-à-vis de cette maladie que j'ai développé depuis plusieurs années des compétences. Ces compétences, je les ai développées seule, développées parfois aidées par d'autres professionnels de santé. Et puis, j'ai décidé de développer ma propre expertise de la vie avec la maladie. Et au-delà d'un simple témoignage, pardon, j'ai voulu me former, me professionnaliser et donc pratiquer, faire de l'éducation thérapeutique du patient. Je suis aussi bénévole et membre actif de l'association francophone pour vaincre les douleurs, qui est une association de patients avec laquelle je construis et je co-construis des programmes d'éducation thérapeutique avec des équipes soignantes. Et puis, dans le cadre de missions salariées, je suis maintenant formatrice pour des 40 heures, des DU, d'éducation thérapeutique, donc des diplômes universitaires. Et j'interviens aussi dans les écoles d'infirmiers, dans les IFSI. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Macal. Donc, première question donc pour chacune d'entre vous, et vous répondrez là pour le coup dans l'ordre où vous souhaitez répondre et prendre la parole, sur vos attentes, puisque c'est un des thèmes de cette table ronde. Est-ce que vos attentes ont évolué en parallèle de l'évolution législative qu'on connaît? Est-ce que vos attentes ont évolué quant à l'effectivité des droits des usagers dans notre secteur au moment, et Mme Macal en a parlé aussi par rapport au sanitaire, au moment où on parle de co-construction et où on essaye effectivement d'élaborer les projets ensemble? Donc, sur cette première question, qui veut se lancer?
Alors, je vous le disais dans la petite réunion préparatoire, nos attentes restent désespérément immuables. Mais de fait, elles se formulent peut-être plus finement à mesure que les politiques publiques, elles aussi, affinent leurs réponses et modifient leurs, ce qu'on pourrait appeler leurs éléments de langage. Mais je dirais que à la base, il y a une attente fondée sur 5 principes directeurs dans l'organisation de la réponse que nous attendons. Le premier, c'est un principe de précocité de l'intervention. Précocité des repérages, précocité des bilans, précocité du diagnostic, s'il y a possibilité de faire un diagnostic. Dans le cas de mon propre enfant, il n'y a pas eu cette possibilité, en dehors d'un diagnostic, d'un constat simplement clinique. Il était polyhandicapé suite à une anoxie de naissance, mais pourquoi cette anoxie, nous ne le savions pas. Et puis, dans cette précocité, il y a aussi la nécessité d'un bilan complet, d'un bilan sensoriel, d'un bilan neurologique, d'un bilan orthopédique, d'un bilan multidimensionnel qui puisse être repris à date régulière. Ça, c'est le premier principe, le principe de précocité, parce que je considère, enfin nous considérons tous qu'il faut tirer le meilleur parti possible de cette période de la petite enfance, de cette période de plasticité neuronale qui permet sinon des restaurations complètes, en tout cas des récupérations intéressantes et de faire frein aux possibles régressions. Deuxièmement, un principe de proximité. Parce que trop souvent, dans ces situations de handicap complexe, la ressource, il faut aller la chercher loin. Et trop souvent, nous ne l'avons pas près du domicile. Vous savez combien nos situations de handicap sont pourvoyeuses de cohortes migrants vers la Belgique. Donc, il est important que cette réponse de proximité soit assurée. Nous verrons plus tard comment l'assurer. Ne serait-ce que pour respecter le cadre de vie et les liens affectifs de l'enfant, l'aider à construire son histoire propre et singulière. Troisièmement, un principe de continuité de la réponse. Continuité ne veut pas dire forcément linéarité, filiarisation obligée de son circuit, mais en tout cas, ne jamais laisser en panne le projet d'accompagnement pour cet enfant. Quatrièmement, un principe de souplesse. Nous avons à peu près 15 ans de distance entre la naissance de votre enfant et le mien. Moi, je ne représente pas tout à fait la proto-histoire quand même. Hein. 82, j'ai bénéficié des annexes 24 de 89, la mise en œuvre de l'année de 75. J'ai participé au chantier de la loi de 2002 et de 2005. Quoi qu'il en soit, Cette souplesse que nous souhaitions, elle doit permettre de respecter le choix de vie et de la personne elle-même et de sa famille. Or, trop souvent, nous sommes acculés au tout ou rien, au tout internat ou au tout hébergement, la réponse complète, vous nous confiez votre enfant et on fera le reste. Voilà. C'était ça, les débuts que j'ai connus. C'est moins vrai aujourd'hui. En tout cas, il faut des solutions, des réponses qui puissent mixer justement le domicile, le recours à l'institution, à des services légers, pour permettre à l'enfant de pouvoir bénéficier, de vous évoquer les droits de la personne. Eh bien, ce droit, par exemple, c'est nouveau, ça vient d'émerger même pour le champ du polyhandicap, le droit à la scolarisation, à la mise en situation d'élève de l'enfant. Et puis, à côté de cette souplesse, enfin, la qualité des services. C'est le cinquième principe. Qualité sans laquelle nous ne nous autorisons pas, nous, parents, à confier notre enfant. Et cette qualité, elle tient alors à tout ce qui va être en débat sans doute aujourd'hui, à la pluridisciplinarité, à la densité des plateaux techniques, à la qualité aussi d'animation de ces équipes, à la transdisciplinarité, à la formation des équipes, aux apprentissages mutuels, à tout ce que nous allons examiner d'un peu plus près tout à l'heure. Et puis, elle tient aussi à la manière dont les parents sont impliqués dans le projet et à la qualité de la relation que nous souhaitons partenariale entre les professionnels et les parents. J'ai vu évoluer les termes utilisés pour évoquer cette relation entre parents et professionnels. Longtemps, il a été question exclusivement de la place des parents. Et lorsque dans les débats, on évoquait les parents, on les évoquait pour dire quelle est la place des parents. Alors que moi, j'ai toujours mis en avant la responsabilité éminente des parents. Et responsabilité dont l'exercice demande que nous soyons aidés, soutenus par les professionnels. Mais encore faut-il que nous soyons reconnus comme partenaires, détenteurs aussi d'un savoir. Nous sommes aussi experts de notre enfant, pas experts de tous les enfants, mais au moins de notre enfant. Et ces connaissances que nous apportons dans la construction du projet, elles doivent aussi bénéficier à tous et être livrées au commun de la réflexion partagée. Voilà ce que je peux dire rapidement sans trop vouloir. Voilà. Ce que je voulais enfin dire pour conclure, c'est que ces cinq principes, excusez-moi, sont solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que si l'un de ces principes n'est pas respecté, inéluctablement on glisse vers ce qu'on peut appeler la maltraitance, maltraitance indirecte, voire maltraitance directe. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup. Si vous permettez, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez, par exemple, dit sur la responsabilité des parents. Et si je peux me permettre d'être un peu provocateur une seconde, il en est également de même, non seulement, j'allais dire, dans le domaine médical, mais y compris dans le domaine, par exemple, de l'école ou de la scolarisation. Trop souvent, la médecine en France, tout comme l'école en France, se sont construites par le rejet des parents. Comme si le rejet des parents était curatif. C'est très intéressant comme conception. Alors que dans des pays où, par exemple, la scolarisation des enfants différents, bon, en l'occurrence, je parle souvent des enfants autistes, mais là, on parle des enfants différents en général, se fait grâce à la présence des parents directement dans l'école. Aux États-Unis, les parents sont souvent présents dans la salle de classe. Ce n'est pas pour fliquer les profs, mais c'est pour partager les trucs et astuces nécessaires à la bonne scolarisation de l'enfant, entre guillemets, différent. Mais d'ailleurs, hein, quel enfant est normal ? D'ailleurs, vous parliez à très juste titre de plasticité du cerveau des enfants, et ça c'est absolument fondamental, mais j'allais vous poser la question, quelle plasticité du cerveau des hommes politiques ?
Bien. Madame Gentil, je vous propose de poursuivre puisque vous devez vous retrouver probablement dans les propos de Madame Gambrel.
Je m'y retrouve effectivement beaucoup et elle a dit énormément de choses intéressantes. Si je peux me permettre, je rajouterai que en tant que parent, je peux affirmer que notre inquiétude, c'est la rupture du parcours de soins. Ce qui nous inquiète, c'est le passage de la jeunesse à l'âge adulte, lorsque les enfants quittent un établissement où ils ont un parcours de soins souvent très très bien, parce que grâce aux lois, ça, tout a évolué. Et quand arrive 20 ans, là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, vraiment, c'est l'inquiétude des parents, c'est... Le problème majeur, parce qu'au niveau des lois, souvent à l'âge adulte, que ce soit au niveau des MAS ou des FAM ou d'autres établissements pour adultes, le parcours de soins n'est pas suivi. Donc, en tant que parent, c'est vraiment notre inquiétude. Après, au niveau de... je mange mes mots... L'annonce du handicap, c'est vrai que les parents ne sont pas assez soutenus et ça c'est général. Malgré les progrès qui ont été faits ces dernières années, il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'annonce du handicap. Donc au niveau du polyhandicap, c'est, je dirais, encore pire. Dans tous les points qu'a cité Madame Gambrel, quand on est atteint d'un handicap simple. Le polyhandicap, c'est vraiment la bête noire et on est un petit peu mis de côté par rapport au reste du handicap. Voilà, c'est les points que je voulais rajouter par rapport à tout ce qu'a dit Madame Gambrel.
Merci. Madame Macal.
Écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter parce que je vous rejoins complètement là-dessus, si ce n'est insister sur cette notion justement d'aidant. Les personnes qui vivent avec un enfant différent ou avec un conjoint atteint d'une pathologie, d'un handicap, ont elles aussi un savoir d'expérience de cette maladie, de cette pathologie, de ce handicap dans la vraie vie de tous les jours. Et il est vraiment très très important d'en prendre compte au niveau des professionnels de santé quand on veut justement, par exemple, construire des programmes d'éducation thérapeutique. Je reviens là-dessus parce que c'est mon domaine. On ne peut pas faire sans tenir compte des aidants, sans tenir compte de la personne elle-même. Voilà.
Merci. Une autre question donc, qui s'adresse là aussi à chacune d'entre vous sur comment, donc là on a vu plutôt effectivement vous en tant que parent ou que personne en situation donc, de maladie, donc comment du côté des usagers, comme on les nomme dans le secteur médico-social, comment rendre en tout cas les personnes avec handicap associé, polyhandicap, etc., tous les vocables qu'on a déjà vus et utilisés au cours de ces trois jours, comment les rendre donc sujets de leur accompagnement et de leur parcours de vie.
Je me permets de revenir sur l'intervention. Il est bien que ce soit un patient expert, pour reprendre l'expression avec laquelle vous vous êtes présenté, qu'il l'ait dit et non pas directement un parent aidant. C'est important en effet de rappeler que et la personne aidée et la personne aidante ont partie liée dans la situation de handicap. Et qu'il y a ce qu'en Europe on appelle un handicap par association qui peut menacer la personne aidante dans la mesure où, et c'est particulièrement vrai, flagrant, aigu dans le cas des situations de polyhandicap où la dépendance sur toutes les dimensions de la vie est extrême. Il peut y avoir une espèce de phénomène de capture, enfin l'aidant peut devenir captif de la personne, de la situation de handicap, avec tous les risques aussi en effet de fusion toxique avec la personne aidée ou d'emprise aussi sur le projet de la personne, le propre projet de la personne aidée. Alors ça, c'est quelque chose que, alors pardonnez-moi de recourir à mon expérience toute personnelle de parent.
Vous êtes là aussi pour ça.
Mais c'est quelque chose que j'ai perçu pratiquement d'emblée, que l'avenir pouvait être barré et pour lui et pour nous avec lui. Et c'est d'ailleurs pourquoi mon mari, que je vais citer une seule fois au moins, et qui est pourtant absent et cependant si présent en creux dans mon activité bénévole, m'a fortement encouragée à m'engager dans les mouvements associatifs pour précisément prendre du recul par rapport à la situation vraiment d'interdépendance extrême que nous vivions. J'ai vécu quand même pendant 7 ans ce que d'aucuns pourraient qualifier une non-vie, tant 24 heures sur 24, j'étais sur le front. Puis après, ça s'est un petit peu desserré avec la mise en place de la suppléance apportée par les professionnels. Mais c'est vous dire combien ces risques-là sont grands et combien il faut en prendre conscience. En tout cas, je ne regrette rien de ce que j'ai pu fournir pour accompagner cet enfant et travailler à percer l'énigme de son handicap. C'est un enfant qui n'avait pas de communication verbale. Et j'ai suis toujours partie du principe que c'est lui qui devait, et c'est là que je dis que sa place est essentielle dans l'élaboration du projet, et son rôle est essentiel dans l'élaboration du projet que nous co-construisons avec lui, dans la mesure où c'est lui qui, par l'expression de son bien ou de son mal-être, ou par l'expression de ses choix quand il est en capacité de les faire, qui peut nous aider à ajuster notre rôle. Je suis toujours partie du principe que mon enfant, c'est l'expression que j'ai, à laquelle je recours et que j'ai apporté à l'étude du CEDIAS, j'ai toujours misé sur le génie relationnel de toute personne. Ce qui ne veut pas dire une surcompétence dans la relation, mais une capacité à laquelle il faut absolument croire à vouloir entrer dans la relation avec l'autre, ou en tout cas à entrer, même de façon inconsciente, dans la relation. Et c'est à nous, accompagnants, de faire écho aux signes qu'il nous donne pour lui faire prendre conscience qu'il y a, et pardonnez-moi, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous intervenez auprès de personnes qui ont des capacités sans doute bien plus importantes, des capacités relationnelles. Mais dans le champ du polyhandicap, il nous fallait, et c'est pour ça que c'est une excellente école de formation, il nous fallait nous saisir des signes expressifs les plus ténus pour y faire écho et faire prendre conscience à l'enfant que... il est dans une relation. Et c'est la constance de notre intervention, la régularité de notre réponse, la constance aussi de notre, oui, de notre attention qui lui permet d'accéder peu à peu à un stade de communication bien meilleur. Et j'ai vu, si mon enfant a régressé sur le plan orthopédique, sur le plan moteur, d'une façon tragique qui a conduit à son décès, en tout cas, sur le plan de l'éveil, il n'a jamais cessé de progresser jusqu'à ce que puisse s'établir entre nous des dialogues non-verbaux, vocalisés, sur le mode souvent du chant alterné, mais d'une grâce absolue et qui provoquait chez lui, comme chez moi et comme chez nous, ses proches, vraiment une jubilation extraordinaire qui a été fondatrice de sa qualité de vie. Mais encore faut-il, pour que cela puisse éclore, et d'une part que j'ai pu me payer, grâce au revenu de mon mari, le luxe de renoncer à mon activité professionnelle et donc de l'accompagner constamment pour pouvoir faire ce travail de construction de la relation avec lui. Mais ça n'est pas donné aux familles souvent monoparentales, contraintes de travailler, vous voyez. Donc c'est vous dire combien il y a des enjeux très très lourds, et l'étude du CEDIAS a axé vraiment tout son travail et toutes ses conclusions sur la communication, et vous le disiez très justement, le soin. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux axes qui doivent permettre à la personne de prendre toute sa place de sujet. Voilà. D'accord.
Merci. Madame Gentil.
Il est vrai que Alix étant polyhandicapée aussi, elle ne parle pas du tout, donc ni vocalise, il y a juste des grognements ou des cris. Et il est vrai que la communication est très très importante. Donc, pendant les 8 premières années de vie d'Alix, hein, moi, je me suis consacrée un peu comme Madame Gambrel à sa vie. Donc, on est devenu fusion. Tellement c'était fusionnel, on était en fusion. Et il a fallu décrocher de la fusion parce que c'était malsain. Donc, elle est rentrée en IME... où là, la séparation a été très difficile. Et il est vrai que le parcours de soins qu'elle a reçu dans cette IME était très bien. Donc, c'était une continuité de ce que j'avais mis en place pendant 8 ans à l'annonce du handicap. Et il est vrai que là-bas, ils ont appris aussi à communiquer avec elle, mais différemment. Moi, je communiquais avec elle par le regard, et eux, ils communiquaient avec elle par le corps, donc au niveau du gestuel. Sauf que dans le syndrome de Rett, le gestuel, c'est des stéréotypies constantes avec les mains. C'est les mains qui se frottent, c'est les mains qui se tapent, et ça ne s'arrête jamais. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec elle par le corps. Mais c'est vrai que le regard est important. Après, quand on est en fusion comme ça, on ne sait plus qui est la maman, de l'aidant et de l'infirmière. Donc là, il faut apprendre à tenir son rôle et savoir rester maman malgré le fait qu'on soit aidant et vice-versa. Et ne pas oublier la fratrie qui, elle aussi, est un peu aidant, sœur, ou infirmière. Donc il faut aussi replacer la fratrie là où elle doit être, c'est-à-dire quand ils sont petits, des enfants et pas des petites mamans. Donc tout ça, c'est vraiment un parcours, je dirais, qu'on peut apprendre grâce à une personne extérieure. Et souvent, je parle des psychologues parce que ils sont un petit peu oubliés, les psychologues. Donc, et pourtant essentiel pour justement arriver à faire la part des choses. Voilà, je dirais ça en complément de ce qu'a dit Madame Gambrel par rapport au polyhandicap.
Merci, Madame Macal. C'est peut-être là, à moins que vous vouliez en parler après, mais que vous allez pouvoir aussi, à partir de votre expérience, témoigner de la question de la reconnaissance de l'expérience et de l'expertise des malades.
Oui, justement, comment redonner aux malades sa place d'acteur, peut-être déjà en ayant une approche plus globale de la personne, c'est-à-dire ne pas constamment le voir avec la casquette malade vissée sur la tête. Cette personne-là, c'est une personne, c'est un être humain. Donc proposer une relation d'aide, plus, hein, pour pouvoir renforcer les capacités de cette personne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis, justement, essayer de voir avec lui ce qui pourrait être une qualité de vie acceptable pour lui. Et c'est là que, justement, les personnes aidantes sont essentielles, parce que quand on se retrouve au milieu d'une équipe soignante, elles vont voir tout ce côté médical. Et il n'y aura pas cette approche de la vie réelle qu'elles n'ont pas finalement, puisque ben voilà, c'est un fait, elles ne vivent pas avec la personne malade et elles n'ont pas cet acquis d'expérience que l'on peut avoir dans la vie avec la maladie, aussi bien quand on est malade soi-même que quand on est aidant.
Merci. Joseph veut intervenir.
Non, pardon, juste un petit mot. Tout à fait, mais j'allais en parler en aparté tout à l'heure. La question qu'on peut se poser est la suivante. Quand on fait médecine, par exemple, et je tiens à préciser que j'ai fait des études de médecine, hein, 2 heures, je m'étais trompé d'amphi une fois. les hommes politiques, ils remplissent leur CV comme ça, donc je fais pareil. Hein. Mais je veux dire, quand on fait médecine, il y a tout le long cursus. Et bien, dans toutes ces années, il y a une question que je crois on ne pose pas aux étudiants futurs médecins. Donc, pourquoi vous souhaitez faire médecine ?
Ouais.
Oui, c'est pourtant une question assez fondamentale. Et donc, ensuite, j'allais poser une autre question. Finalement, ce que toutes les trois, vous avez parfaitement décrit un rôle d'acteur, un rôle dynamique, tout ce qu'il y a à faire, toute l'anticipation de l'avenir. Est-ce que ce n'est pas l'antithèse du terme de patient, finalement ? Qu'est-ce qu'il attend, le patient ? Il n'y a rien à attendre. Attendre le retour de la croissance ? Non, ça c'est une ânerie, ça. Non, on peut être un peu impatient et on peut viser haut. Et par exemple, je repense au syndrome de Rett. Il y a un certain nombre d'œuvres, de blogs, d'écrits faits par des personnes porteuses du syndrome de Rett. Et c'est extraordinaire. Je connais plein de personnes valides qui sont incapables de faire ça. Donc finalement, on peut viser haut, même par rapport à quelques, j'allais dire, points difficiles ou qui passent pour horribles, je ne sais quelle particularité médicale. Voyez, après, pour ce qui est du polyhandicap, si j'ose dire, quand vous cumulez les handicaps, c'est mal vu, mais quand un homme politique cumule les postes, ça, c'est très bien vu. Pourquoi c'est comme ça ? Et si, pardon, je bavarde trop, mais juste une dernière question très générale, si vous le voulez bien. Vous avez parlé à très juste titre d'une relation d'aide. Mais est-ce que vous connaissez des enfants dits normaux, des enfants dits valides, qui n'ont pas besoin d'aide ? Qui d'entre nous n'a pas besoin d'aide dans la vie ? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui savent tout faire ? C'est bien, je vous recrute tout de suite.
Voilà. C'est vrai, mais par contre, juste pour rebondir, j'ai l'intime conviction d'une chose qui, voilà, parce que ça m'est arrivé, la maladie nous fait oublier, parce qu'elle est très dure à vivre, nos objectifs, nos priorités, souvent. Et cette aide, ça nous permet justement de se repositionner sur soi-même, de se recentrer sur soi-même et de redéfinir quelles sont nos priorités à nous. Et quand je parle de nos priorités à nous, ça ne veut pas dire des priorités du médecin, des priorités de l'équipe médicale, des priorités que l'on aimerait, des objectifs que l'on aimerait nous faire atteindre. Ce sont nos propres objectifs. Et toute personne peut être acteur de son parcours de soins à condition qu'on lui en laisse la possibilité, à condition qu'on l'épaule et pas à condition qu'on fasse un enseignement vertical. Comme c'est beaucoup trop souvent, bon, ça commence à changer heureusement, hein, mais en France, voilà, pour un patient. Pour un patient.
Le handicap, c'est les autres.
Exactement.
Ouais. Bien, pour,
vous me permettez ?
Vite, parce que normalement, on a atteint notre temps et je voulais vous laisser. Donc, à chacune, nous dire vos rêves futurs.
Pour faire écho à ce que disait M. Skovanek sur, en effet, vous parliez des politiques, on peut parler aussi de la haute administration, et vous parliez du mot patient. Regardez le poids, par exemple, de l'intitulé de la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, alors que nous aurions préféré citoyens. Hein, ou bien encore l'intitulé calamiteux du décret du 20 mars, je crois, 2009, relatif aux obligations incombantes aux établissements et services accueillant des personnes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie. Mais à partir de là, l'avenir est barré quand on pose un intitulé de cette nature. Et puis, je ne veux pas...
Oui, non, davantage. Donc à chacune, je vous laisse le dernier mot, et très rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette première table ronde, c'est nous dire quels sont vos rêves pour le futur par rapport à toutes ces questions, donc sur vos demandes pour l'avenir.
Alors évidemment, le rêve de tout parent pour son enfant, ce n'est pas polytechnique, hein, je vous rassure. Surtout s'il est polyhandicapé, mais par contre, c'est une bonne prise en charge. Et ça, c'est vraiment, vraiment le rêve des parents. C'est aucune rupture de prise en charge, un parcours de soins en continuité. C'est vraiment, vraiment le rêve. Ce serait le rêve.
Écoutez, ça fait écho à l'intitulé du rapport Piveteau, le devoir collectif de permettre un parcours sans rupture aux personnes en situation de handicap. Et cette injonction morale assortie de la radicalité du surtitre « zéro sans solution hein, », elle est à prendre en compte et elle est à permettre qu'elle soit effective. En effet, moi, j'aime que la responsabilité morale qui incombe à un ensemble d'acteurs soit remise au premier plan. C'est un devoir collectif. Alors, ce que j'espère, c'est bien entendu ce que je disais en entrée, c'est-à-dire la mise en œuvre des attentes qui sont les nôtres, c'est-à-dire, comme vous le dites si bien, un parcours continué depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, parce que se pose pour nous, parents, la question de l'après-nous. Et nous voulons être assurés que la place de cet enfant dans cette société, cet enfant qui est le nôtre, sera une place qualitativement garantie. Et puis, nous souhaitons aussi qu'il soit aimé aussi, tout simplement, qu'il soit regardé positivement. Or, il y a bien des peurs, bien des a priori, bien des préjugés contre lesquels il faut juger, il faut lutter. Et en cette période d'ailleurs contemporaine de réflexion sur la fin de vie, avec des définitions très étroites de la notion de qualité de vie et de dignité, on peut s'inquiéter pour des personnes telles que celles que nous accompagnons. Et puis, ce que nous demandons, et alors là, c'est un des chevaux de bataille du CLAPHA, c'est une évaluation partagée des besoins, des compétences, des difficultés de la personne, un apprentissage mutuel de tous les acteurs, des techniques d'intervention et un échange permanent sur les réflexions qui peuvent naître au décours de l'accompagnement de la personne. Ça, c'est absolument indispensable dans le cadre d'une, ça a été dit à plusieurs reprises au cours de ces journées, j'imagine, d'une pédagogie du doute, de l'humilité, du questionnement. Voilà.
D'accord. Merci, Madame Macal.
Alors, mon souhait, c'est la poursuite de l'éducation thérapeutique, aussi bien au niveau de l'accueil des personnes malades qu'au niveau des personnes qui se forment à l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire au niveau des patients experts. J'ai l'espoir que les patients experts puissent continuer à intégrer des équipes soignantes pour aller de la construction d'un programme à sa mise en place, au même titre qu'un soignant dans cette équipe-là, c'est-à-dire qu'il soit reconnu comme un véritable acteur et qu'il ait toute sa place, ce qui n'est pas toujours le cas. On est parfois un peu mal accueillis. Bon, alors parfois très très bien, il y a des personnes soignantes qui nous accueillent à bras ouverts et qui sont très heureuses de travailler avec nous. Et il y en a d'autres qui mettent en doute nos capacités, nos compétences et avec lesquelles c'est assez compliqué, peut-être par peur aussi qu'on empiète un petit peu sur leur territoire, alors qu'on ne table pas du tout sur les mêmes... on ne travaille pas sur les mêmes choses. On travaille dans la pédagogie et non sur le soin en tant que patient expert. Ce que je souhaite, c'est que le patient expert soit reconnu comme un nouveau professionnel de santé, c'est-à-dire qu'il soit professionnalisé, qu'il y ait un métier de patient expert. C'est-à-dire pour les personnes qui se sont formées, au-delà d'un DU voilà, sur des masters, des doctorats, qu'il y ait une professionnalisation. Je peux maintenant, moi, faire des formations pour les personnes soignantes, des formations d'éducation thérapeutique. Je peux coordonner des programmes. Et ce que je souhaiterais maintenant, parce que tout ça, c'est des missions salariées, ce que je souhaiterais maintenant, c'est avoir un réel poste salarié à temps plein, comme n'importe quelle personne, et que ma reprise d'études après cette maladie qui continue, mais que je gère, serve en plein à quelque chose. Voilà.
Merci. Joseph, pour conclure cette table ronde avant la pause.
Merci. Et après tout, quelle meilleure université que celle de la vie, non, finalement. Il y a toutes sortes de baratins qu'on mène à la fac ou à l'école, qu'on oublie aussitôt et qui ne serviront à rien. Quand est-ce qu'on aura, par exemple, dans les universités françaises, des départements d'études de handicap? Comme c'est le cas dans beaucoup d'universités internationales. On peut faire des études de handicap comme on fait des études de maths ou de géographie. En France, ça paraît surréaliste, mais ça existe dans beaucoup de pays. Quand est-ce que nos camarades futurs journalistes dans les écoles de journalisme auront une formation à la différence et à la richesse humaine ? Et si vous le permettez, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est la dernière phrase du préambule de la Constitution suisse. Je vous la cite mot pour mot. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Et je pense que ça dit beaucoup de choses en termes de lien social, sur quoi une société doit être fondée ou pas. Merci beaucoup.
Merci mesdames pour votre participation très précieuse. Merci Joseph.
Petite pause. On va reprendre. Juste un mot. Vous avez dans vos fiches une fiche d'évaluation. Il y a une boîte. Mettez avant de partir. Il y aura une conclusion après. C'est pas sur le programme, mais après l'intervention de Monsieur Bolland. Il y aura une petite conclusion avec un petit film, donc ne partez pas tout de suite après l'intervention de M. Bolland. Merci. Je le dis tout bas parce que je ne voulais pas interrompre ce qui vient d'être dit et vos réflexions après de tout ce qui vient d'être dit. Désolé pour cette intervention technique et un peu idiote. Merci.